Ouellet.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio. X.
Grève 57, je sens que nos syndicats sont un peu en panique. Un peu.
Je vais vous. Ils sont toujours en panique.
Ben oui, mais là, c'est parce que.
C'est la panique. Là.
Hein?
À chaque fois qu'ils sortent, c'est la panique.
Ouais, mais il fut un temps où j'ai l'impression qu'ils avaient vraiment l'impression d'avoir le contrôle puis d'avoir les deux mains sur le volant. Puis pas grand monde les remettait en question. Quoique, bon, ici, ça fait plusieurs années quand même qu'on parle des syndicats. Mais. Je pense qu'il y a des limites des fois. Là. À penser que tu peux tout faire, tout dire. Moi, j'ai l'affaire de la décapitation. Je sais pas. Là. Je veux savoir ce qu'en pense notre invité. On va aller le rejoindre, comme à tous les lundis. Jean-François Lisée est là. Monsieur Lisée, bonjour.
Bonjour.
Si j'organise ici, en face de la station, une décapitation symbolique de Charles Milliard, est-ce que je m'en sors bien, moi, aujourd'hui?
Ben, tu t'en... pas auprès des libéraux, en tout cas.
Non, mais je nomme un nom. Ou Magali Picard. Admettons, j'organise une symbolique décapitation, oui. juste pour le fun, là. De Magali oui. Picard, est-ce que ça passe bien?
Ben, non, ça passe pas. Évidemment que ça passe pas. Mais je vais te donner un autre exemple plus compliqué. Si tu organises une manifestation en faveur de la liberté d'expression radiophonique à
oui.
Québec,
oui.
tu as 500 personnes... Et puis, à la fin de la manif, tu as un groupe que tu connais pas qui vient avec une guillotine puis il dit, ben on va trancher la tête du ministre de la Culture.
Ouais.
Un toi, groupe, tu les as pas invités,
un
là.
Un groupe que je connais pas.
Tu les connais toi, pas. Toi, ils sont venus dans la manif. Évidemment, ta manif était ouverte.
Ouais, tu sous-entends que ces gens-là étaient inconnus là, des syndicats. Là. Il y avait... Moi, j'organise une manif et quelqu'un est capable de rouler avec une guillotine grandeur oui. nature pendant oui. des kilomètres avec nous autres, puis il n'y a personne qui s'en rend compte jusqu'à temps que... Oh mon Dieu, c'est une guillotine, ça! Voyons.
Écoute, regarde, moi, pour moi, c'est complètement condamnable. Ça normalise la violence. Il
mais
faut le condamner.
Mais ça répond pas à JC, par exemple, Jean-François, parce que c'est vrai ce qu'il dit, c'est que là, c'est pas un coup... qui a été fait à la va-vite et qui dure 30 secondes, il fallait vraiment être là pour le voir. Là. C'est une charrette oui. qu'on tire, puis je veux dire, elle fait partie de la parade. Là,
la
à
poupée
donné,
s'est promenée tout le long dans, et, avec eux autres.
Puis là, à un moment c'est donné, vient le moment fait... où on y tranche la tête. Fait que je veux dire, on a le temps en masse d'avoir un malaise puis de dire, je sais pas où est-ce que vous en allez avec ça, mais je pense que c'est pas une bonne idée.
Ça, c'est exactement les questions qu'il faut leur poser parce que, et... évidemment, les centrales syndicales organisent la manifestation du 1er mai. La manifestation est ouverte, mais généralement, il y a un service d'ordre. Le service d'ordre est là pour faire en sorte que tout se passe bien. Quelle est leur politique lorsque, dans la manif, un groupe externe, là, c'est Alliance ouvrière, qui est un groupe plutôt marxisant pour la lutte de classe, ils sont à gauche du NPD, et leur but, c'est de prendre le contrôle des organisations syndicales pour faire des grèves politiques. Ça, c'est... Bon. Donc, ils sont affiliés à aucun syndicat. Ils sont vus comme une nuisance par les syndicats. Mais en tout cas, ils sont là. Ils ont le droit d'être dans la manif. Mmh. Lorsque le service d'ordre de la FTQ et de la CSN voit qu'il y a une guillotine qui s'en vient, qu'ont-ils fait? À qui ont-ils parlé? Puis pourquoi ils les ont laissés faire? Et là, l'autre question que la police se pose souvent dans le cas des manifs, avait-il la capacité de l'empêcher? Avec suffisamment de gens pour l'empêcher, puis qu'est-ce que ça aurait provoqué comme confrontation s'il avait tenté de l'empêcher? Ça, c'est toutes des questions très pratiques. Mais moi, je ne suis même pas rendu là parce que j'attends encore que les syndicats nous disent à quel moment ils ont été avisés de ça et quel était leur processus de décision, s'il y en avait un, pour essayer de l'empêcher.
Est-ce qu'on s'entend que Rebel News, là, puis je comprends qu'ils ont bien le tort puis leurs défauts, là, mais si Rebel News ne met pas l'emphase là-dessus, personne ne parle de ça. Moi, j'ai l'article qui est sorti après la manif dans la presse, ici, là, sous les yeux. Là, et on nous parle bon, du mouvement syndical, des travailleurs. On est là pour les travailleurs. Le gouvernement nous met de côté. Le gouvernement s'attaque aux syndicats. Et là, il y a une photo de la guillotine avec Jean Boulay qui est baïonné, by the way. Avant de le décapiter, ils l'ont baïonné. Et c'est marqué comme ça. Je te lis le petit titre sous la photo. certains manifestants étaient visiblement mécontents de la réforme syndicale du ministre Jean Boulet. Et c'est tout. Il n'y a pas un mot là-dessus. Et on finit en disant, malgré une présence policière, la presse n'a pas remarqué de débordement, mais on prend un paragraphe pour nous expliquer l'opinion de Nima Machouf. Tu sais, à un moment donné, là, est-ce que pas de Rebel News, on n'entend jamais parler de ça?
Ben là, tu vois, la photo était là. C'est dans quel journal, ça, tu as vu ça?
La presse.
Dans la presse. Ben écoute, moi, j'ai fait plusieurs... j'ai été journaliste longtemps, j'ai couvert beaucoup de manifestations. Et puis, s'il y a une manifestation où il y a une guillotine, où quelqu'un est brûlé en effigie, ben ce qui a été souvent le cas, hein, t'es brûlé en effigie, c'est toujours quelque chose que tu soulignes, tu sais. Tu dis, bon, monsieur a été brûlé en effigie, etc. Ensuite, c'est aux autres de réagir. Là, la guillotine, c'est nouveau par rapport à brûler en effigie, mais c'est digne de mention et ensuite, c'est digne de discussion.
Ouais. Discutons justement. La loi de Jean Boulet, là, est-ce qu'elle mérite des décapitations symboliques? Moi, je sais pas. Là, on demande de voir les livres comptables. On demande d'avoir, de pouvoir, comme travailleur, des fois s'enlever. Puis je sais qu'on a déjà eu un peu cette discussion-là. Mais il me semble que quand j'entends les chefs syndicaux nous dire que c'est la fin du syndicalisme puis que le gouvernement... Hey, au Québec, c'est quasiment un travailleur sur deux qui est syndiqué, Jean-François. Mmh. Il me semble qu'un peu de transparence, ça fait pas de tort, là.
Ça, bah, tout à fait. Moi, j'ai toujours dit que cette loi existe, n'existerait pas si les syndicats, si tous les syndicats ne faisaient pas eux-mêmes le travail interne de transparence, y compris au moment des votes. Je pense que la loi est excessive dans la façon dont elle essaie de contrôler l'activité politique des organisations syndicales. Puis ça, c'est perfectible. Le Parti québécois a déposé une série d'amendements pour faire en sorte que ça soit plus applicable et moins tatillon. Mais sur le fond des choses, la loi existe. Pourquoi? Parce que la Fédération des enseignants autonomes ont organisé des grèves, ont d'abord pris 2 millions de dollars pour financer leur contestation juridique de la loi 21, alors qu'on sait que la majorité de leurs membres étaient opposés à cette contestation. Là, il y avait un bris démocratique qui était certain. Puis un certain nombre de leurs votes de grève ont été faits dans des conditions qui n'étaient pas loin d'être idéales pour la démocratie. Donc, les lois existent parce que des organismes tiers ne font pas leur propre rôle d'autorégulation correctement, sinon tu n'as pas besoin de faire la loi. Et donc, pour moi, ben, c'est clair que les syndicats, on leur impose un carcan qui n'existait pas, et donc ils réagissent négativement avec l'ensemble de la rhétorique syndicale, et cette fois-ci, avec un groupe qui est à leur gauche, qui est allé encore plus loin. Peut-être que les syndicats vont nous dire demain que tu as le droit d'interdire à quelqu'un d'être dans ton cortège. Hein? C'est compliqué à faire, mais tu peux l'interdire.
Mais pourquoi c'est compliqué à faire?
Ben, c'est parce que c'est exactement comme la police qui essaie d'encadrer une manifestation du Black Bloc. Là. Je veux dire, il y a des gens
qui sont prêts... Oui, mais le syndicat, c'est pas les Black Blocs, là. C'est pas supposé, là.
Non, c'est pas supposé, mais tu sais, il y a rien de pire qu'une foule que tu essaies d'empêcher de faire ce qu'elle veut faire. Donc, il faut que tu aies une capacité de contrôle de ce groupe-là. Quand bien même c'est 50 personnes, contrôler 50 personnes qui veulent pas être contrôlées, par exemple, à la police de Québec, c'est pas donné à n'importe qui.
Mais parlons-en de cette espèce d'amalgame-là, parce que là, moi, hier, là, tu sais, à un moment donné, tu te demandes, mettons, tu sais pas, tu étais sous une roche ou tu étais trop concentré sur les Canadiens en série, puis là, tu regardes, c'est quoi ce manif-là? Là, tu regardes les slogans. « From the river to the sea »,« Free Palestine »,« Les travailleurs en liberté »,« Jean Boulet, non merci », tu sais, c'est... Là, c'est rendu une espèce de paquet de tout ce qui veut faire la révolte, là, tout ce qui est dans la rue. Il n'y a plus de tête. C'est dirigé par tout et son prochain. Moi, je sais pas, là, moi, j'y tiens à mon segment travailleur. J'ai pas envie de me faire une manif où je suis pas tout le temps en train de me faire crier « Free Palestine ».
Ah, c'est... Écoute, les organisateurs syndicaux sont tellement en empathie avec toi, là. Mm-hmm. Le problème, une manifestation, c'est pas un spectacle dans une pièce fermée où tu vends des billets, où tu peux même contrôler qui achète des billets.
Non, je sais, mais pourquoi ça attire tout ce monde-là? Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est à la racine, c'est la même gang, là.
ils y vont toujours. Puis avant, c'était les marxistes-léninistes, puis il y a des trotskistes, puis des maoïstes.
Oui, mais Jean-François, on a fait une manif ici à Québec pour protéger les arbres sur René Lévesque, des arbres de 120, 125 ans qu'on veut couper sans même savoir si on a du financement pour un projet de tramway. Je t'annonce qu'il n'y a pas eu de black bloc, là.
Est-ce que vous avez des Free Palestine?
Non, zéro.
Hey, vous avez été chanceux.
Non,
hey, vous
on n'est juste, pas dans la même gang. C'est ça l'histoire. Non, mais c'est vrai.
C'est parce que vous n'êtes pas à Montréal. Parce qu'il y en a pas mal partout.
Non,
il y en a pas
mal partout. Non,
je suis étonné que vous n'en ayez pas eu un ou deux quand même.
Moi, je pense qu'il faut se séparer de Montréal. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire avec vous autres.
C'est le prochain mouvement de séparation,
non,
Jean-François.
C'est gangréné. Vous retardez le groupe.
C'est pas vrai, Jean-François. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que ça attire ce monde-là parce qu'ils font partie des mêmes sous-comités communautaires puis de la même gang alimentée par la même idéologie. Il y a quelque chose là-dedans. Là. C'est pas juste « Ah, ben ils sont là partout. » C'est pas vrai. On a eu des manières où il n'y avait pas des gens qui criaient Free Palestine partout. Là.
Bon, ben écoute, moi, je te dis, c'est sûr qu'il y a des organisations syndicales qui aimeraient qu'il n'y ait pas de distraction dans leur manif puis que leur principal message soit entendu et qu'ils ne sont pas contents que leur communication soit complètement scrappée parce qu'il y avait Alliance ouvrière puis Free Palestine dans leur manif. Je pense pas qu'ils sont contents.
Tu penses? OK. Faudrait envoyer un petit oiseau pour écouter dans les meetings, mais on le saura pas, c'est à huis clos tout ça. Changement drastique de sujet. Il y a quelques semaines, j'ai vu passer un sondage pan-canadien, puis ma première réaction, c'est j'ai pouffé de rire, j'ai failli m'étouffer avec mon café, parce qu'on demandait aux Canadiens, seriez-vous ouvert à faire une entrée dans l'Union européenne? J'ai même pas fini le mot « européenne », je suis parti à rire. J'ai dit, voyons donc, je veux dire, quelle réflexion un peu illogique. Là. Notre voisin est à côté, c'est le plus gros marché sur la planète. On fait 80% de notre business avec eux autres. Voudriez-vous couper le cordon et devenir un membre de l'Union européenne avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire des eurodéputés, une nouvelle couche de démocratie, des fonctionnaires, des attachés politiques, des bureaux. Puis là, j'ai saisi que les Canadiens étaient vraiment apeurés. J'ai compris qu'il n'y avait plus de réflexion. Là. On n'est plus dans l'intelligence, on est dans l'émotion. Dis-moi pas, Jean-François, tu trouves que ça fait du sens?
Non, ça fait aucun sens. Je comprends que se rapprocher de l'Europe et augmenter nos rapports commerciaux avec l'Europe et nos fronts communs sur toutes sortes de sujets de politique étrangère, c'est une bonne chose de diversifier nos alliés.
En général.
Sans couper le cordon avec les États-Unis, mais disons que on n'est pas dans la bonne époque pour approfondir nos relations avec notre voisin, mais à mon avis, c'est passager. Mais ceux qui disent, bon, dans ce cas-là, on devrait être membre de l'Europe, ça, vous ne savez pas ce que ça veut dire, parce que effectivement, la couche de bureaucratie, mais aussi la perte de souveraineté.
Oui.
La perte de souveraineté quand on entre dans l'Europe, par exemple aux Britanniques, c'est considérable. Et ça veut dire que ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire tous les règlements qui ont adopté au cours des 40 dernières années, s'appliqueraient immédiatement au Canada. Alors, il n'y a personne de sérieux qui propose ça, mais il y a des formes. Bon, le fait qu'on ait une entente de libre-échange avec l'Europe, c'est déjà quelque chose que les Américains n'ont pas. Ça, c'est très bien. Est-ce qu'on peut être associé de façon plus intense avec l'Europe? Oui, M. Carney est en ce moment à un genre de sommet de l'Europe au sens large où généralement des pays d'Amérique ne sont pas invités. Donc, on peut faire ça. On peut être plus présent en périphérie de l'Europe, mais ce serait vraiment une mauvaise idée de devenir membre de l'Union elle-même.
Bien, c'est parce que, à ma grande surprise, il y a comme 40% des... Je sais, là, elbows up, puis M. Trump, il nous fait peur, là, mais il y avait comme 40% des Canadiens qui disaient qu'il faudrait y penser. Tu sais, c'est impossible, ça rentre pas dans ma logique, dans ma tête, là, ça se peut pas, là.
On leur a pas bien expliqué les choses. Ils écoutent pas notre émission.
Oui, sûrement. Là, rassure-moi, Jean-François, mon ami séparatiste, dans notre prochain pays, le Québec, là, est-ce qu'on va pouvoir faire une déclaration ensemble pour dire que les États-Unis vont rester pour toujours notre plus grand partenaire économique?
Ben oui, parce que c'est juste dire l'évidence.
Bon, OK.
Ouais.
Ah là, on a fait un pas ensemble, là.
Oui, faire grand pas.
Je suis content. Mais tu comprends? Mais on le sait que Mark Carney joue là-dessus. Là. Il est en train de craquer tout le monde. Là. Ça peut mal finir, ça.
Oui, mais là, regarde, oui, ça peut mal finir. Moi, je trouve que l'idée que Tu sais, bon, c'est sûr que Trump, c'est un bully. OK, bon, il faut gérer ça. C'est difficile à gérer. Mais la chose que je ne ferais pas, c'est d'avoir sur mon bureau constamment la statuette d'un général britannique qui avait fait la guerre aux États-Unis en 1812.
Hey, ça, c'était malade.
Tu sais, mais c'est pas un drapeau rouge, ça? Es-tu obligé de faire ça?
Le gars nous l'a présenté comme un général canadien. Le Canada n'existait pas.
C'est un général britannique
avec une tunique rouge.
Ce général britannique à la tunique rouge, qui n'est pas la tunique la plus populaire au Québec historiquement, mais ça, ça n'a pas l'air d'entrer dans son cerveau. Mais
Jean-François, juste... je t'interromps, parce que ça n'a pas l'air de rentrer dans le cerveau de beaucoup de Québécois qui ont voté pour lui et qui l'aiment beaucoup. Là.
Oui, mais tu sais, c'est au sens propre belliqueux. Belliqueux, c'est comme bellum, ça veut dire la guerre.
Ouais.
Tu sais, puis à chaque fois que je. Elle dit tous les jours, je regarde ça, là, tous les jours tu penses à la guerre aux États-Unis, c'est pas une bonne idée.
Je sais. mais ça ne sera jamais. Tu sais, c'est. Je sais pas. Il joue à quelque chose, puis je sais que là, on rigole, là, mais il joue à un jeu dangereux parce que vraiment, tu sais, de faire booster l'émotion à ce point-là où des gens perdent complètement la logique. Tu sais, là, c'est. Oh oui, on va être européens, nous autres, pas de problème, tu sais. Puis c'est vraiment. Moi, il faut qu'à un moment donné, il faut que le peuple reprenne ses esprits. Quand est-ce que ça arrive?
Tu sais, qu'on dit que le Québec est l'endroit le plus européen des Amériques.
Oui.
Mais c'est pas tout à fait vrai parce que l'Argentine, qui a été vraiment très, très peuplée par des Argentins, eux, ils se prennent aussi pour des Européens. D'ailleurs, la blague en Argentine, c'est deux Argentins se parlent. Il y en a un qui dit « Oui, notre économie n'est pas tellement bonne. » Et l'autre dit « Oui, mais c'est vrai aussi pour le reste de l'Europe.
» C'est un peu loin quand même.
Oui.
C'est un gag de haut niveau, ça.
Oui. Ça, c'est...
Monsieur Lisée, merci beaucoup. Bon lundi.
Merci, bon
Salut,
lundi.
Salut, bye. Jean-François Lisée, que vous pouvez lire, vous pouvez aussi commander ses livres sur son site laboitealisée.com. On s'est entendu sur une chose. J'aimais ça.
Qu'il fallait se départir de Montréal. Ville gangrenée.
Si tu veux.
Pour Jennifer.
Bien, puis Jean-François, écoute encore. On s'en reparle la semaine prochaine.
Free Montreal.
Ouellet. Bon. En direct.
Oh, de quoi?
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.